Tous les mercredis de 16h à 17h, vous avez rendez-vous avec le monde sur iRadio. Diplomatie, votre émission dédiée à la géopolitique et aux relations internationales, passe au crible l'actualité internationale avec des experts de premier plan intervenant dans divers domaines et dont l'expertise n'est plus approuvée. Diplomatie, c'est la tribune des hommes et des femmes qui font bouger le monde de par leurs positions et actions de tous les jours. Économie, politique, culture, environnement, santé, sport, votre rendez-vous des nouvelles du monde décrypte tout. Diplomatie, c'est tous les mercredis de 16h à 17h sur iRadio avec Mam Abdougay Kassé.
Mercredi 26 juin 2024, bonjour à toutes et à tous, merci de votre fidélité au programme de la radio d'ici et d'ailleurs. En cet après-midi, votre émission Diplomatie passe au crible l'actualité politique française avec en ligne de mire les législatives anticipées après la débâcle des européennes raflées par l'extrême droite. Le premier tour de ces élections est prévu le 30 juin et le second le 7 juillet. Depuis quelques jours, la droite classique s'est ralliée à l'extrême droite, le Rassemblement national. La gauche traditionnelle a noué elle aussi une alliance avec l'extrême gauche incarnée par la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon autour du nouveau Front populaire. Les NFP, tout comme Ensemble pour la République, n'ont qu'un seul objectif, barrer la route au RN qui est aux portes du pouvoir. Le parti Progrès et Solidarité va également jouer les troubles faits. Pour en parler, nous avons d'ailleurs le plaisir de recevoir Sébastien Périmoni du parti Solidarité et Progrès, dont le président est Jacques Cheminade, qui a été 3 fois candidat à la présidentielle française. Notre hôte est candidat dans la 9e circonscription des Français de l'étranger, qui inclut le Sénégal. Bonjour Sébastien Périmoni.
Oui, bonjour à vous et puis bonjour à tous les auditeurs qui nous écoutent.
Première question, les Français de l'étranger établis dans la 9e circonscription, vous connaissent-ils assez?
Alors, je dirais jamais assez, puisque malheureusement, en fait, vous avez vu, il y a très peu de couverture médiatique de cette élection législative. Et quand couverture médiatique il y a, on ne parle que de Mandela versus Attal, ou de temps en temps, maintenant, de plus en plus, du nouveau populaire. Donc, on a une candidature qui est organisée par les médias, ne parle que des principaux candidats. Et d'ailleurs, ce qui est très législatif, c'est que quand on propose de faire des débats entre les candidats, y compris dans la 9e circonscription, il n'y a pas de raison pour qu'on ne pourrait pas avoir un public, pour que les gens puissent nous connaître et surtout connaître les plus candidats qui n'ont pas forcément accès aux médias. Ces derniers refusent. Donc, évidemment, on fait campagne par Internet, on fait campagne en passant sur des télés. Et pour que les gens puissent nous découvrir, même si, bon, je dois l'avouer, j'ai chance de voyager à quelques reprises dans cette circonscription. J'étais d'ailleurs, lors de la dernière élection où j'étais candidat également dans cette circonscription au Sénégal, j'avais pu venir passer une semaine au Sénégal pour rencontrer les Français. J'ai également voyagé à plusieurs reprises en Côte d'Ivoire, où j'ai donné beaucoup de conférences, au Mali, en Algérie ou ailleurs. Mmh. Donc, c'est une circonscription que je connais bien, et pour laquelle, justement, j'essaie de me faire mieux connaître par rapport à la différence que mon programme a avec les autres candidats.
Pourquoi devrait-il voter pour vous le 30 juin prochain et le 7 juillet si, bien sûr, vous êtes éligible au second tour?
Je dirais qu'il y a une réponse par la négative, une réponse par la positive. Mmh. Commençons par la négative. Si vous voulez, je sais que les citoyens, souvent, ont des... A priori, les candidats, ils font leur choix pas forcément par rapport au programme et le lisent très peu. Donc là, on a les circulaires. J'invite d'ailleurs tous les Français de l'étranger à faire ce même travail, d'aller lire les déclarations de candidature, les programmes des autres candidats. Je ne parlerai que de ceux de mes deux principaux opposants, enfin opposants médiatiques, on va dire, Kachek, donc du Nouveau Front Populaire, qui compte, si vous voulez, son programme. C'est le paradis sur Terre. Hein. C'est doubler les budgets dans tous les domaines, doubler le nombre de personnes dans les services exonérer, oublier les créations des bourses. Enfin bref, tout ça est absolument magique. Or, ce qu'il ne dit pas, c'est que tout ça est impossible. Et ce qu'il ne dit pas, c'est que ces promesses qu'il avait faites la dernière fois, c'est ces mêmes promesses qui avaient été faites aux élections législatives en 2017, en 2012, en 2007, et je pourrais monter longtemps comme ça, promesses qui ne sont absolument jamais tenues. Et tout le monde sait, chez les Français de l'étranger, que la situation ne fait que s'aggraver. Si on regarde le programme présidentiel, c'est encore plus caricatural, puisqu'il y a. Il y a simplement 8 phrases hein, dans le programme, donc avec des phrases totalement vides de sens, comme promouvoir une éducation d'excellence. Voilà. Alors qu'en France, la majorité présidentielle, si vous voulez, a détruit l'école et chaque année, il y a de moins en moins de professeurs qui veulent y retourner, et donc c'est une catastrophe à chaque fois pour les élèves. Donc voilà, proposer une fédération de projets républicains, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, il n'y a rien de concret dans tout ça. Et donc voilà ma réponse par la négative. Mais ce qui me différencie des autres candidats, et je voudrais que les Français de l'étranger, je pense qu'ils le savent quelque part, le système est en faillite et les choses ne font que s'aggraver d'année en année. Mais si je veux que les Français de l'étranger votent pour moi, c'est parce que je propose quelque chose de totalement nouveau, un changement justement dans la relation entre la France et ces pays de l'Afrique. Il faut que 11 pays sur 16 de la circonscription, qui est la 9e, hein, 11 pays sur 16 sont les 30 pays les plus pauvres de la planète, selon le rapport de l'ONU, l'indice de développement humain qu'on peut consulter sur Internet. Donc on voit bien que la politique de la France dans cette région du monde a été une catastrophe, avec un appauvrissement généralisé depuis plus de 50 ans. Donc moi, ce que je propose, et c'est ce qu'attend donc en tout cas la jeunesse africaine et j'espère les Français d'étranger, c'est un changement de paradigme pour dire maintenant on va industrialiser, développer autre projet. J'en propose évidemment plusieurs. J'en mentionne ici que deux, par exemple, le projet Africa Rail, donc le projet pour relier toutes les capitales africaines de l'Afrique de l'Ouest à Grèce, qui permettrait justement de mettre les compétences des Français de l'étranger dans ce domaine et de créer des centaines de milliers dans tout le monde. Justement par ce grand projet de mise en place d'infrastructures. Donc ce projet Africa Rail, on en parle depuis 40 ans et il n'a jamais été réalisé à tel point que si vous allez en Côte d'Ivoire, le train en Côte d'Ivoire va moins vite que les trottinettes à Paris. Il ne dépasse pas 35 km/h. Donc on voit bien que là, il faut un changement total de coopération dans ce domaine des infrastructures. Donc ça, c'est sur le domaine de l'infrastructure ferroviaire. Ensuite, il y a aussi l'autosuffisance alimentaire pour un projet qui est extrêmement intéressant, qui est le projet
Très bien.
Libine au Mali. Il faut savoir que un projet au Fagibine pour irriguer 50 000 hectares de terres, qui sont des terres très très fertiles, et faire justement de cette région du pour toute l'Afrique de l'Ouest, mettre fin au fait que l'Afrique doit porter encore à ce jour, alors qu'elle a tous les moyens pour développer son agriculture. Ce projet des lacs Faghibine est très intéressant. D'ailleurs, il avait été relancé par le président Muammar Kadhafi en 2008, qui s'appelait Malibia pour le projet. Et malheureusement, on connaît la suite de l'histoire où le président Kadhafi a été lâchement assassiné par les forces de l'OTAN, qui a créé une déstabilisation de toute la région et le développement du terrorisme, qui est une nouvelle forme d'impérialisme dans toute la région. Donc
Oui.
voilà, donc ce projet des lacs Faghibi, pour Ricaraï, c'est tout un projet que je propose au président du Niger autour du projet Transaqua pour revitaliser Tchad. C'est pareil, dans cette région, 3 millions de personnes ont été déplacées, 3 millions de personnes dans la région du lac Tchad, à cause de la désertification et la disparition du lac, alors que des projets existent, des projets sur l'étranger, sur lesquels on peut aider à recréer des zones de vie pour que les gens puissent rentrer chez eux. Moi, je propose des projets concrets, pas des promesses, si vous voulez, ce qu'on fait depuis 50 ans. Et donc, je pense que les Français de l'étranger, aujourd'hui, sont moins dupes et peuvent avoir voté pour un candidat qui propose un changement de paradigme dans cette région.
Très bien, on verra ce qu'ils décideront le 30 juin prochain. Mais concernant les relations plus ou moins heurtées entre la France et certaines de ses ex-colonies, vous déclarez dans votre programme comprendre la jeunesse africaine qui a décidé de reprendre le contrôle de sa destinée et de se battre pour retrouver sa pleine et entière souveraineté. Pourquoi dites-vous cela?
Alors d'abord, une précision pour le vote. Évidemment, le vote dans les urnes, les consulats, les ambassades, c'est le 30 juin. Mais depuis hier midi et jusqu'à demain midi, les Français de l'étranger peuvent voter par Internet, par le vote électronique. Il suffit d'aller sur le site de France Consulaire. Et donc, les Français aujourd'hui de l'étranger, de la 9e circonscription au Sénégal et dans les 15 autres pays de l'EM, peuvent déjà voter pour moi. Donc ça, c'était une précision. Le vote a commencé par Internet. Ensuite, pour répondre à une question, c'est question extrêmement intéressante parce que, en fait, moi, je soutiens les révolutions populaires qui ont eu lieu au Mali, au Niger et au Burkina Faso parce que, justement, aujourd'hui, on a une jeunesse qui est consciente, on a une jeunesse qui est éduquée, qui suit les réseaux sociaux, qui s'est formée et qui, aujourd'hui, comprend ce que c'est le néocolonialisme et le rejette. Donc, on a vu ces manifestations, on a vu ces révolutions qui ont permis de libérer ces pays justement de la tutelle du néocolonialisme que je soutiens. Et donc cette jeunesse veut retrouver sa souveraineté. Ça veut dire quoi? D'ailleurs, c'est ce qui me différencie aussi des autres candidats. Je suis le seul candidat à parler du franc-CFA, cette curatelle monétaire de la France-Afrique qui dure depuis les années 60 et que les pays africains, donc pas ceux qui sont sous le franc-CFA, en tout cas, il y en a dans ma circonscription, ne sont pas maîtres de leur budget, de leur crédit, de leur dette. Donc c'est un scandale majeur. Donc je le dénonce. Et quand on a vu les manifestations au Mali, au Burkina ou au Niger, on a vu que ces jeunes voulaient sortir du franc CFA, retrouver leur souveraineté monétaire. Et ce n'était pas quelque chose de nouveau. Si vous, je rappellerai à nos auditeurs ce qu'a fait Modibo Keïta en 1961, 1962, pardon. Il a mis fin au franc CFA, il a créé une banque nationale, il a créé une monnaie nationale. Ce qui lui a permis de faire du crédit public pour lancer un programme d'industrialisation du pays qui a très bien marché. Il a fait des chemins de fer, il a fait une agence aérienne, il a fait des conserveries, il a développé l'agriculture, un peu à ce qu'avait fait Sankara également. Donc, et ça marchait très bien avant qu'il ne soit évincé du pouvoir, justement par ces réseaux françafricains. On l'a vu également au Sénégal, puisque là je parle au Sénégal, j'y étais l'an dernier, et le jour où je suis arrivé au Sénégal, Dakar était bloqué. Vous voyez, on avait interdit la circulation dans Dakar aux scooters, parce que justement, les jeunes étaient mobilisés contre le président d'alors pour justement retrouver sa souveraineté. Et donc, on sait avec le slogan France dégage, qu'on a vu beaucoup au Sénégal, mais plus sérieusement avec le PASTEF, hein, son qui a fait camp contre le franc CFA, et donc justement sur également cette question de la souveraineté, et qui a permis justement à son parti de remporter, si vous voulez, l'élection présidentielle, justement parce que les jeunes aujourd'hui se sont déplacés massivement pour aller voter pour lui et retrouver cette souveraineté. Donc je serai le candidat qui publiquement dénoncera le franc CFA et proposera simplement de l'abroger purement, simplement et définitivement.
Alors, Sébastien Périmoni, le défi pour vous, Français de métropole et de l'étranger, n'est-il pas de saisir cette opportunité, cette occasion pour bâtir enfin une nouvelle donne dans la relation historique franco-africaine?
Bah, c'est tout le but de ma campagne. Vous savez, je l'ai dit, hein, on a trois problèmes en France. On a l'extrême gauche, l'extrême centre, l'extrême gauche de Mélenchon, l'extrême gauche avec le nouveau Front populaire de Mélenchon. On a l'extrême centre, l'ultralibéralisme de M. Macron et l'extrême droite de Jordan Bardella. Il faut que les gens savent que ces trois partis sont tous pour soutenir la livraison d'armes en Ukraine. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on est au bord du précipice. Et ces gens-là sont en train de nous dire qu'il faut faire encore un pas en avant, livrer des armes. Et aujourd'hui, on a franchi plusieurs lignes rouges qui fait que nous sommes au bord d'une troisième guerre mondiale. C'est dit par plein de gens dans le monde.
Oui.
Par exemple, dernièrement encore, des drones ont frappé les centres de radar de télédétection russes sur le territoire russe. C'est-à-dire qu'on aveugle finalement la Russie voilà, par ces attaques. Donc, si vous voulez, on franchit petit à petit des lignes rouges qui peuvent conduire à une guerre mondiale qui sera malheureusement probablement nucléaire, parce que comme toutes les guerres, dès qu'elles commencent, évidemment, toutes les armes sont utilisées. Et on a nos trois extrêmes, l'extrême gauche, l'extrême centre, l'extrême droite, qui dit qu'il faut continuer, faut soutenir l'Ukraine. Le peuple ukrainien est à feu et à sang. Les gens sont utilisés comme de la chair à canon. Donc moi, je suis le candidat de la paix qui propose de mettre fin à ce soutien à la guerre et au danger de Troisième Guerre mondiale. Donc ça, c'est aussi un des facteurs qui fait que je suis candidat et que je me différencie, si vous voulez, des autres. Et en effet, comme je l'ai dit, vous savez, le titre de ma déclaration de candidature, c'est voir l'Afrique avec yeux du futur. Donc en effet, le paradigme passé est terminé, le temps des colonies est révolu, si je peux dire. Et comme je l'ai dit, avec ces révolutions populaires qui ont lieu dans toute l'Afrique de l'Ouest, eh bien, il y a un nouveau partenariat qui va se mettre en place. Et c'est à nous, la France, de réagir aussi. Tue le Sud global aujourd'hui avec les BRICS, les routes de la soie proposées par la Chine, c'est 150 pays dans le monde. Il y a tout un nouveau paradigme de développement mutuel qui se met en place dans le monde avec le Sud global. Et donc, comme je le dis dans ma déclaration, il faut que je sois le pont, justement, entre la France qui retrouve son sens humaniste et le Sud global qui demande de manière légitime le droit à l'autodétermination, au développement, à l'industrialisation et à la coopération gagnant-gagnant.
Alors, dans votre programme toujours, vous incitez les Français au sens des responsabilités lors de ce vote crucial pour l'avenir de votre pays. Vous pensez qu'il faut à tout prix empêcher l'extrême droite de gouverner la France. Vous n'avez non plus épargné la gauche puisque vous déclarez qu'elle a noué une alliance contre nature avec l'extrême gauche qui défend des valeurs qui sont aux antipodes de la démocratie et de la laïcité qui fondent l'image de la France, qui font la force de la France. Et pour ce qui est du centre au pouvoir avec Renaissance Ensemble pour la République, vous dressez un constat d'échec patent sans équivoque. Mais n'êtes-vous pas en train de prêcher dans le vide puisque les derniers sondages démontrent que ces formations politiques que vous critiquez caracolent en tête sur les intentions de vote des Français, trop loin même devant les autres?
Ben, je le dis, il faut changer de paradigme. En effet, ces trois extrêmes, l'extrême gauche, l'extrême centre et l'extrême droite, aujourd'hui sont en fin de course. Le système est en fin de course. On a un système financier qui est en faillite. On a notre dette qui a explosé. On a des partis politiques qui ne se maintiennent au pouvoir que grâce à un système médiatique qui les couvre en excluant les autres alternatives. Donc, en effet, on a un système, on a une sorte de mafia, en fait, hein, de mafia politique, économique, financière, voilà, géopolitique, qui vivent entre soi et qui, malheureusement, ne répondent plus à la volonté ni des Français, ni des autres pays dans le monde, ni de l'Afrique en particulier, aux exigences de notre temps. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, on peut considérer que je ne suis pas audible. Par contre, ce qui est sûr, c'est que ceux qui sont en place ne le sont plus, vont l'être de moins en moins, vont faire des promesses qu'ils ne tiendront pas. Donc, à partir de là, peut-être que les citoyens commenceront à réfléchir autrement et à chercher des alternatives, si vous voulez, à un système tellement sclérosé, mafieux, d'entre-soi, qui n'est plus capable de répondre aux aspirations des populations, que ce soit ici ou ailleurs.
En cas de victoire de l'extrême droite, pensez-vous qu'Emmanuel Macron serait contraint de nommer Jordan Bardella à Matignon à la primature?
La logique républicaine voudrait que si le Rassemblement national avait la majorité absolue, en effet, la logique républicaine voudrait qu'il soit nommé par le président de la République, le Premier ministre, puisque, en fait, il l'a demandé et que le Premier ministre est choisi parmi les rangs de la majorité à l'Assemblée nationale. Donc, la logique voudrait qu'en effet, Jordan Bardella soit élu Premier ministre. Par contre, ce que je crains, et je le crains beaucoup, c'est que la réaction de l'extrême gauche, dans la rue en particulier, soit extrêmement virulente avec
Avec les syndicats.
une extrême. Pardon?
Avec les syndicats.
Oui, avec les syndicats, avec le nouveau Front populaire, il y aura des très, 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 très grandes manifestations. Il y aura un risque de danger, peut-être pas de chaos ni de guerre civile, mais enfin, ce sera une situation très compliquée qui se fera dans la rue. Et moi, je crains ça. Et c'est pourquoi j'appelle justement à voter différemment parce que ces pays, ces partis, comme je l'ai dit, aujourd'hui sont en fin de course et ne peuvent plus répondre aux aspirations des gens.
Les Français de France, comme ceux de la diaspora, sont préoccupés par les questions existentielles qui touchent directement leur quotidien. Justement, le pouvoir d'achat est ce qui les intéresse en premier. Que leur proposez-vous concrètement pour que leur porte-monnaie puisse supporter leurs charges, leurs dépenses?
Ben, si vous voulez, moi je travaille avec Jacques Cheminade depuis 20 ans. Il a été candidat en 95 ou déjà en 1995 dans sa première candidature présidentielle. Il explique qu'on était dans un système financier spéculatif qui allait s'effondrer dans les 10 à 15 ans qui venaient. Il ne s'est pas trompé puisqu'en 2007-2008, le système financier a complètement explosé. On a vu la réalité de cette économie de marché qui n'était qu'une succession de bulles financières. Et malheureusement, à l'époque, au lieu de réformer le système financier, on a tout simplement renfloué les banques, c'est-à-dire qu'on a créé encore plus de bulles. Et aujourd'hui, on se retrouve avec une bulle des bulles, comme on l'appelle dans le monde, dans le jargon financier, la bulle des bulles qui est au bord de l'explosion, puisqu'on n'a rien produit depuis. Donc, on a un danger de faillite du système monétaire et financier. D'ailleurs, les pays du Sud global, ne s'y trompent pas. Vous savez que Sergueï Glazyev, l'économiste russe, Monsieur Kui, l'économiste chinois, sont en train de mettre en place un système économique hors dollar, parce que tout le monde sait que le dollar et l'euro sont en faillite. Donc on aura le sommet des BRICS à Kazan, par exemple, en Russie, à la fin du mois d'octobre, où sera annoncée justement la mise en place d'une nouvelle monnaie de référence internationale pour dédollariser l'économie. Donc en France, ce qu'il faut, c'est en effet, je le propose pour la France, et ça impactera évidemment les Français de l'étranger, moi je propose, comme M. Cheminade, lors de ses deux campagnes de 2012 et 2017, de réformer le système monétaire et financier,
Oui.
de recréer une banque nationale en France, de remettre de l'argent dans le public, justement pour recréer une dynamique d'industrialisation, de développement et redonner du pouvoir d'achat. Si on reste dans ce système, on ne pourra pas redonner du pouvoir d'achat aux gens. On pourra leur faire la promesse que, mais on ne pourra pas le faire car ce système est en faillite.
Toujours sur cette question, le Rassemblement national propose la défiscalisation des Français de moins de 30 ans, afin d'encourager cette frange de la population à rester dans leur pays et à y créer de la richesse. Une proposition jugée démagogique et farfelue par le camp présidentiel Ensemble hier lors du débat télévisé. En lieu et place de celle-ci, qu'est-ce que le parti Solidarité et Progrès propose aux Français?
Bah déjà, oui, en effet, la proposition de M. Bardella est assez ridicule. Et je pense que la remarque de M. Attal était tout à fait fait. Un nouveau tenant qui paierait des impôts et Kylian Mbappé, qui est multimillionnaire, n'en paierait pas jusqu'à l'âge de 30 ans. C'est vrai que ça paraît pas du tout crédible. Et c'est là où on voit malheureusement, hein, l'incompétence des élites, parce que M. Bardella ou M. Attal, vous voyez, c'est. Ce n'est pas des gens qui ont travaillé dans le monde réel, c'est les bébés des partis, ils ont été formés à bien parler. Alors ils parlent bien, hein, ils maîtrisent bien leurs arguments, mais si vous voulez, en dehors de toute réalité concrète, il n'y aura pas de réforme de la fiscalité en France. On le sait, si vous voulez, à partir du moment où justement le pouvoir d'achat ne fait que diminuer, qu'on a une inflation qui est insoutenable, qu'il y a de moins en moins d'emplois productifs dans le pays. On a des emplois, ce qu'on appelle des bullshit jobs, c'est-à-dire des emplois secondaires, des emplois de service, avec quand même 30 à 40 % des salariés aujourd'hui qui ont connu ou connaissent un phénomène de burn-out. C'est-à-dire que même les gens qui travaillent aujourd'hui ne sont pas heureux dans leur travail et parce qu'ils travaillent justement pour un système oligarchique, un système qui aspire toutes les richesses, où 1 % des plus riches, justement, se permet d'annoncer chaque année des centaines de milliards de dividendes, alors que ceux qui travaillent voient constamment leur pouvoir d'achat diminuer. Donc s'il n'y a pas une réforme par le haut, justement, s'il n'y a pas une politique de relance de l'économie réelle, une politique de réindustrialisation, une politique de développement des infrastructures également dans notre pays, par exemple, je pense au nucléaire, au spatial, à nos infrastructures, nos barrages hydroélectriques, il y a énormément de choses qu'on pourrait faire si justement on se redonnait les moyens via une banque nationale de crédit public, de remettre au travail justement les citoyens avec des salaires décents. Si on ne fait pas ça, je pense que promettre un petit peu plus d'impôts, un petit peu moins d'impôts, une année ou deux de départ à la retraite en moins ou en plus, Je pense qu'à l'intérieur du système, c'est totalement utopique et c'est évidemment le grand tabou de cette élection présidentielle, c'est la faillite du système financier.
Parlons du salaire minimum de croissance du SMIC. Il est actuellement de 1 539,42 €, soit 1 600 000 francs CFA. Les Français, dans leur majorité, estiment qu'il faut le revoir à la hausse face au coût élevé de la vie. Êtes-vous en phase avec eux? Et si demain vous êtes élu, comment comptez-vous vous y prendre?
Oui, tout à fait. Je suis tout à fait en phase avec ça. On voit bien qu'aujourd'hui, l'indexation des salaires sur l'inflation n'est pas faite. Donc, on a évidemment un décalage de plus en plus grand entre ce que les gens gagnent et ce que les gens doivent payer. Moi, j'ai des amis, par exemple, qui travaillaient dans une société d'informatique, qui ont un pouvoir d'achat inférieur qu'à celui qu'ils avaient il y a 20 ans, par exemple. Il y a 20 ans, ils avaient les moyens d'avoir une famille, de payer ce qu'ils pouvaient. Aujourd'hui, malgré qu'ils ont 20 ans d'expérience, ils n'arrivent plus à avoir autant de pouvoir d'achat. Donc, ça touche toutes les catégories sociales. Donc, on voit bien que justement, c'est l'ensemble du système qui est vérolé par cette finance spéculative, où tout l'argent est aspiré dans les marchés financiers et n'est plus redistribué. On le voit, par exemple, un exemple tout bête. Vous savez, on donne des dizaines de milliards à l'Ukraine pour la guerre. On a doublé jusqu'à 400 milliards le budget de la défense en France, 400 milliards pour la défense, pour le lobby de l'armement. Donc on voit bien que le problème, ce n'est pas, si vous voulez, le pouvoir d'achat en soi, mais c'est où est-ce qu'on dépense l'argent, où est-ce que la France dépense son argent? Est-ce qu'on le finance? On le dépense pour la guerre, on le dépense pour financer l'armement, ou on le dépense pour la santé, pour l'éducation, pour le pouvoir d'achat, pour augmenter le SMIC à 1 600 euros, 1 700 selon les cas. Voilà, on voit que le problème n'est pas l'argent, le problème c'est où est-ce qu'il est mis, et je crois que c'est ce problème-là fondamental qu'il faut résoudre.
Venons-en à l'épargne. Pour protéger les Français contre la hausse d'impôts qui est actuellement de 75% sur le revenu brut, mais aussi pour la maîtrise des finances publiques qui explose le plafond de la dette du pays, c'est quoi la solution selon Solidarité et Progrès dont vous portez les couleurs dans la 9e circonscription des Français de l'étranger?
Alors nous, elle se porte en trois points. D'abord, la première chose, c'est de faire ce qu'on appelle un audit, un moratoire sur la dette. Il faut savoir que la France, depuis les années 70, enfin, pour être précis, le 1973, la France ne peut plus faire de crédit public, c'est-à-dire elle ne peut plus financer sa propre économie par elle-même avec des taux d'intérêt faibles et à long terme. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est qu'à partir des années 70, la France a dû emprunter sur les marchés après la destruction des accords de Bretton Woods, a dû emprunter sur les marchés financiers. Or, sur les marchés financiers, les taux d'intérêt sont beaucoup, beaucoup plus élevés. Donc, depuis maintenant 40 ans, la France s'endette à des taux d'intérêt supérieurs et ces taux d'intérêt, on appelle ça les taux d'intérêt composés, ne font qu'augmenter tous les ans par rapport à notre dette. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on dépense dans le remboursement de la dette plus de 40 à 50 milliards par an pour rembourser la dette. Et encore, on ne rembourse que les intérêts de la dette. C'est pour ça que cette dernière ne fait qu'augmenter. Donc, tous ces intérêts composés qui ont été ces dernières années sont illégitimes. Il faut faire ce qu'on appelle un jubilé, hein. Il faut faire un audit de cette dette, la déclarer illégitime. D'ailleurs, nos amis africains qui connaissent le comité d'annulation de la dette des pays du tiers-monde, le CAD, qui a fait énormément d'études sur la question, sait très bien qu'aujourd'hui, une grande partie des dettes de l'Afrique, et d'ailleurs je le dis aussi en passant de la France, sont des dettes illégitimes, justement liées à ces taux d'intérêt sur les marchés financiers. Donc ça, c'est la première chose. Faire un moratoire sur la dette et en annuler une grande partie. Toute la dette liée aux intérêts spéculatifs financiers doit être annulée. La deuxièmement, c'est de faire un projet de loi qu'on a déjà fait d'ailleurs, il a été rédigé et proposé à l'Assemblée nationale, c'est de faire une loi pour la séparation des banques de dépôt et des banques d'affaires. C'est-à-dire, avant, la BNP était une banque de dépôt et Paris, banque d'affaires. La BNP gérait l'épargne des citoyens, leurs dépôts, et la Paribas, si vous étiez riche, vous pouviez investir dedans pour faire des investissements plus ou moins risqués. Or, si ces investissements étaient mauvais, ben, Paribas tombait en faillite. Et ça n'avait aucun impact. Il n'y a que ceux qui avaient misé leur argent comme dans un casino qui perdaient leur mise. Et donc, voilà, ça, c'est du vrai libéralisme, mais ça ne touchait pas l'épargne des citoyens. Or, depuis Mitterrand, depuis 1983, on a fusionné les banques de dépôt et les banques d'affaires, ce qui fait que quand justement les banques spéculent avec l'argent des citoyens et fait n'importe quoi, comme on l'a vu en 2007-2008, eh ben, au lieu que ces banques d'affaires qui ont pris des risques tombent en faillite, bye bye, merci, bonsoir, eh ben, on est obligé de les renflouer, sinon c'est tout l'épargne des citoyens qui se vole en fumée. C'est ce qui s'était passé en 1929 aux États-Unis, et c'est pourquoi Franklin Delano Roosevelt, le président américain, dès qu'il est arrivé au pouvoir en 1933, a mis pour la en place cette loi de séparation des banques de dépôt et des banques d'affaires. Donc aujourd'hui, avec Solidarité et Progrès, nous reproposons de revenir à cette loi. Ceux qui veulent spéculer, ceux qui veulent investir, ceux qui veulent aller au casino, eh bien qu'ils y aillent, mais qu'ils assument s'ils se trompent. L'argent des citoyens, l'argent des entreprises, l'argent des déposants sera protégé. Et c'est à partir de cet argent, qui est un argent protégé, solide et de l'épargne, qu'on peut émettre des crédits via une banque nationale, ce qu'on faisait sous la Ve République avec la Banque nationale de France, qui n'est plus aujourd'hui une banque nationale. On a la Banque centrale européenne hein, qui nous gouverne. Donc, avec cette Banque nationale de crédit public, sur la base de l'épargne des citoyens, on peut réémettre des crédits à long terme, à faible taux d'intérêt, pour l'aménagement de l'homme et de la nature, pour les services publics, pour investir dans les technologies du futur. Vous avez vu que la France est en retard dans tous les domaines. On est en retard dans l'intelligence artificielle, on est en retard dans les technologies de l'information et de la communication, on est dépendant de Microsoft, on est en retard dans les voitures électriques, on est dépendant de BYD en Chine, on est en retard dans tout ce qui est les serveurs, enfin voilà, toutes les technologies modernes. Et on prend même aujourd'hui dans des technologies sur lesquelles la France était à la pointe dans les années 60-70. J'entends le spatial, le nucléaire, qui étaient des domaines dans lesquels la France excellait. Et aujourd'hui, on a perdu tout ça. D'ailleurs, beaucoup de gens le dénoncent, la perte de capacité. Donc, il faut revenir via cette banque de crédit public à long terme et à faible taux d'intérêt, pour revenir dans cette politique d'aménagement du territoire. Et c'est par ce biais-là qu'on pourra recréer une société de plein emploi et de plein emploi productif, pas les emplois, les bullshit jobs qui amènent au burn-out.
Vous êtes en train de suivre Diplomatie sur e-radio. Sébastien Périmoni, candidat du Parti Solidarité et Progrès aux législatives dans la 9e circonscription des Français de l'étranger, est notre invité. Sébastien Périmoni, le débat sur le nucléaire et la transition énergétique est très agité en cette pré-campagne. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous proposez concrètement sur ces deux questions, le nucléaire d'une part et la transition écologique de l'autre?
Bah, je dirais d'abord qu'on a raté un virage parce que moi je suis assez attristé. Vous savez, j'ai eu la chance d'assister au sommet Russie-Afrique à Saint-Pétersbourg en juillet dernier. Un des rares Occidentaux à être présent parce qu'on était les Occidentaux n'étaient pas les bienvenus. Mais qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu que le Burkina Faso a demandé à la Russie, en particulier à Rosatom, de faire un partenariat stratégique pour le développement du nucléaire civil. Ça a été signé. J'ai vu que Rosatom a signé des partenariats dans le développement du nucléaire civil avec une dizaine déjà de pays d'Afrique, l'Ouganda, le Nigeria, le Ghana et d'autres. Et Rosatom construit une des plus grandes centrales, qui sera une des grandes centrales d'Afrique, à El Dahaba en Égypte actuellement, qui sera opérationnelle dans quelques années. Donc là où la France avait un atout, on l'a complètement gâché. On aurait pu exporter notre nucléaire et aider justement à l'autosuffisance énergétique dans les pays africains avec qui on avait des relations directes. On ne l'a pas fait. Voilà le résultat. Encore plus grave, le Niger, qui est dans ma circonscription, le Niger qui a fourni de l'uranium à la France pendant des années, aujourd'hui au Niger, seulement 15% des gens ont accès à l'électricité. Alors qu'ils nous ont
Et le
fourni
Niger
de
qui a failli
l'uranium.
retirer la licence à Orano, qui est quand même une multinationale française
Oui.
et s'active dans le nucléaire.
Eh bien, c'est une très bonne nouvelle. Parce
Ah
que
oui.
pendant 60 ans, on a pris l'uranium, on n'a rien donné en échange. On n'a pas construit 1 km de chemin de fer, on n'a pas construit une école, on n'a pas construit un hôpital, on n'a même pas construit de centre nucléaire. Donc voilà le résultat de cette politique complètement stupide et folle. Donc
Donc
je
vous
la dénonce et
applaudissez.
moi, j'essaierai de changer ça. Donc le nucléaire est un atout de la France. Aujourd'hui, il y a un partenariat qui est fait beaucoup plus avec la Russie. La France a des atouts. On peut relancer notre filiale nucléaire. D'ailleurs, il faut le faire par cette banque de crédit national, comme je l'ai dit. le nucléaire de quatrième génération, les réacteurs au thorium, d'ailleurs dont on possède des ressources aussi en France. On a tout un chantier à faire aujourd'hui en France dans ce domaine, qui créera bien sûr énormément d'emplois productifs, parce que vous imaginez, si on doit construire 60 nouvelles centrales nucléaires dans les 50 prochaines années, surtout des centrales de quatrième génération qui sont totalement propres à sécurité intrinsèque, où tous les problèmes du passé sont révolus, là, on peut vraiment recréer une économie productive où justement les gens sont contents de travailler, justement parce que ça nous amène évidemment l'électricité qui est pas chère et on peut baisser les factures d'électricité. Donc c'est directement relié au pouvoir d'achat. Donc ça, c'est une chose sur laquelle je me bats évidemment.
L'autre problématique qui préoccupe fortement les Français, c'est la sécurité. Aujourd'hui, il y a des attaques un peu partout à Marseille, mais également des scènes de pillage de magasins, de pharmacies. Que faites-vous si vous êtes élu pour ramener cette sécurité qui intéresse aujourd'hui fortement vos compatriotes?
Bah c'est une question qui est très alarmante, si vous voulez. Quand moi je vois mon pays sombrer comme ça dans le chaos, sombrer dans le trafic de drogue, et dans tout ce qu'on peut voir aujourd'hui avec comme à Marseille, des zones non-droit. Aujourd'hui, vous savez qu'on peut payer un jeune de 16 ou de 17 ans, on peut le payer 3 000 euros pour tuer quelqu'un. Donc voilà où on en est. On est devenu quoi quasiment en France avec tous les trafics. Alors évidemment, on a M. Darmanin qui nous dit qu'il va faire des places nettes XXL, il déplace les endroits de deal d'un endroit à l'autre. C'est totalement ridicule. On n'attaque pas le trafic de drogue. C'est-à-dire le monde finance. Qui blanchit l'argent de la drogue? C'est ça qu'il faut se poser. Quels sont les réseaux qui blanchissent cet argent? Donc c'est les grandes banques, HSBC par exemple, qui est très connue pour ça. Donc on a un réseau de paradis fiscaux. On a un réseau justement de blanchiment de l'argent de cette drogue. Aujourd'hui, si on veut arrêter justement cette violence liée au trafic de drogue, sans parler de la dégénérescence des citoyens, si vous voulez, il suffit de voir, je ne sais pas si vous avez déjà vu ces images aux États-Unis, à New York, où vous avez des zombies qui prennent du fentanyl, dont c'est une drogue qui rend les gens comme des zombies, qui arrive d'ailleurs en France, si vous voulez, voilà, et rien n'est fait. Donc il faut s'attaquer à ces réseaux par le haut, c'est les réseaux de la finance. C'est les réseaux qui sont, c'est pas s'attaquer aux dealers du coin, ça ne changera rien. Donc il faut prendre le problème justement à la racine, ce n'est pas fait. Et donc les opérations place nette ou promettre qu'on va régler le problème sans toucher justement à ces réseaux mafieux qui chapeautent justement ce blanchiment de l'argent du terrorisme aussi, hein. Vous savez qu'il y a des banques qui ont été prises, même des banques françaises, hein, ou des entreprises françaises qui ont blanchi de l'argent du terrorisme, qui ont été condamnés en France pour cela. Donc on connaît les réseaux qui alimentent et entretiennent justement ce chaos. Donc il faut avoir le courage de s'y. Ce n'est pas donné à tout le monde. En tout cas, nous, on a le courage de le faire. Si on est élu, on aura le courage de le faire.
Aujourd'hui, Sébastien Périmoni, on le sait, la violence, elle est beaucoup plus présente dans les quartiers difficiles, dans les zones entre guillemets abandonnées, d'après ceux-mêmes qui habitent là-bas. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'est pas grand temps que les pouvoirs publics essayent de revoir, de changer de paradigme?
Ah ben oui, c'est tout le but de ma campagne, changer de paradigme. Vous savez, en France, l'activité, en effet, elle est partout à cause justement de la drogue en particulier. Vous savez, la France est en train de devenir un narco-État, quasiment comme on le voit aux Pays-Bas ou même en Belgique, avec des records de saisie de drogue partout et toute une mafia financière qui organise justement ce blanchiment de l'argent de la drogue. C'est pas le dealer du coin ou celui qui vend du shit ou de la cocaïne dans un bloc d'immeubles, si vous voulez, qui organise ce trafic. Donc il y a une hypocrisie sur ça quand on voit M. Darmanin faire ses opérations place nette, XXL, XX plus et je ne sais quoi encore, qui ne font que déplacer le point de deal d'un endroit à un autre. Donc on voit à Marseille, aujourd'hui, comme je le disais, on peut tuer quelqu'un pour 3 000 euros. Voilà, embaucher des jeunes qui sont perdus parce qu'ils n'ont pas d'avenir. Aujourd'hui, avec la désindustrialisation de notre pays, les jeunes ne voient pas leur avenir. Toute cette culture des influenceurs, cette culture de YouTube ou du sport business, vous voyez, tout ça attire les jeunes. Il n'y a que ça qu'on leur met devant le bout du nez sur les réseaux sociaux. Il n'y a plus cette culture du travail. Donc nous, le Parti Solidarité et Progrès, c'est le parti du travail humain, c'est comme ça qu'on s'appelle. C'est pour ça qu'on veut relancer une grande politique de développement industriel avec des gens qualifiés, former les gens qualifiés pour cela. Et donc, cette ambition de créer une culture de la découverte, une culture de l'envie, une culture du travail, vous voyez, contre la culture du burn-out, du pessimisme et des influenceurs et d'Instagram.
Parlons maintenant de la laïcité. Les différentes formations politiques qui prennent part aux législatives, certaines en tout cas, proposent la suppression de la suppression de signes distinctifs, notamment le port de l'abaya, le voile intégral ou encore la burqa. Est-ce que vous également, vous êtes dans cette dynamique?
Bah, disons, je pense que c'est un sujet de société aujourd'hui qui est débattu. Il y a la position, je dirais, la plus républicaine. En effet, si on respecte la tradition française de la laïcité, hein, la séparation claire, nette et précise, si vous voulez, entre la République, la religion, qu'à l'intérieur, en effet, des institutions public, la présentation d'appartenance à des caractères religieux. Alors, après, il y a la loi et puis il y a la réalité, c'est comme toujours, vous savez, hein. Tout ça a fait que beaucoup de gens qui étaient venus dans les années 60, 70 pour travailler se sont trouvés ghettoisés dans des banlieues
Bien.
et avec la pauvreté, certains réseaux extrémistes en ont profité pour les radicaliser. Donc, il faut lutter contre tout ça en même temps. Pour résoudre ces problèmes, je pense qu'il faut changer les élites politiques, parce que c'est ces mêmes élites politiques, hein, gauche, droite, confondues, extrême gauche et extrême droite aujourd'hui, qui nous mènent justement vers ce chaos de plus en plus grand. Donc je pense qu'il faut changer de paradigme, il faut changer les élites. C'est pour ça que je me présente dans cette circonscription. Donc j'appelle à tous les Français de la 9e circonscription des Français de l'étranger. Donc c'est tous les pays d'Afrique du Nord, Tunisie, Algérie, Libye, qui est une partie de l'Afrique de l'Ouest, hein, de la Côte d'Ivoire au Niger, au Mali, au Sénégal, la Gambie, Sierra Leone, Liberia
Oui.
et Côte d'Ivoire. Donc, votez pour moi à partir d'aujourd'hui par Internet et jusqu'à demain midi par Internet et dimanche 30 juin dans les consulats et les ambassades.
Très bien, merci à vous Sébastien Périmoni d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes candidat pour la 9e circonscription des Français de l'étranger du Parti Solidarité et Progrès aux législatives du 30 juin prochain. Merci à vous également, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Diplomatie, c'est terminé pour cette semaine. Excellente suite des programmes sur la radio d'ici et d'ailleurs. Au revoir.